Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux uns et aux autres. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas vu certains qui étaient en vacances, en voyage. Et en tout cas, on est content de vous revoir en forme. J'espère que vous en avez bien profité. En tout cas, alors si vous m'avez vu monter sur scène avec cette bouteille, c'est parce que ceux qui étaient là la dernière fois ont compris que j'avais eu un petit souci au niveau de la voix et que, au cas où, voilà, si ma voix commençait à partir, eh bien, je pourrais au moins avoir de l'eau sous la main. Donc, c'est juste pour cette raison-là. Heureusement que j'ai ma chère épouse pour me rappeler cela. Alors, vous avez remarqué que le texte qui vient d'être lu n'est pas celui qui était programmé initialement. En fait, durant la semaine, j'ai travaillé sur le texte de Colossiens 2 et je me suis rendu compte, notamment face aux difficultés contenues dans le texte, que j'aurais besoin de plus de temps, d'un délai supplémentaire avant de prêcher ce texte. En fait, il me faut encore élucider certains points et je ne voulais pas exposer une prédication à la va-vite. Et comme je prêche dans les prochaines semaines, eh ben, je me suis arrangé avec moi-même. Voilà. Donc, pour cet après-midi, eh bien, je vous propose qu'on puisse s'arrêter sur un texte de l'Ancien Testament. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas prêché sur l'Ancien Testament, donc c'est l'occasion. Et notamment avec le psaume 119, bien connu par les chrétiens, en tout cas par sa renommée, on va dire, et peut-être aussi le psaume le moins lu parce qu'il est le plus long. 176 versets, ce n'est pas rien pour un chapitre de la Bible. 176 versets, quasiment tous au sujet de la parole de Dieu ou de la loi de Dieu. Et dans ce beau morceau de poésie, eh bien, le psalmiste décrit tout l'amour, toute la passion qu'il a pour la parole de Dieu. Parce que justement, cette parole vient de Dieu. Et l'auteur parle avec beaucoup d'authenticité de sa relation avec Dieu et avec sa parole. Et peut-être que cet après-midi, notamment à la lecture qui a été faite, certains d'entre nous sentent un décalage avec ce que dit le psalmiste. L'auteur aime tellement la parole qui vient de Dieu. Mais qu'en est-il de nous? Certains parmi nous éprouvent peut-être ne serait-ce que des difficultés à pouvoir lire cette parole régulièrement. Le cœur n'y est pas. D'autres la lisent, mais oublient de la mettre en pratique. Et d'autres encore, peut-être, doutent. Est-ce que tout ce qui est écrit là, dans la Bible, est bien vrai? Il nous faut nous l'avouer, nous sommes souvent bien loin de l'expérience décrite par le psalmiste. Et néanmoins, cet après-midi, je vous propose qu'on puisse nous mettre à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu nous appelle à marcher avec lui en suivant sa parole et en comptant sur son aide. Il nous appelle à marcher avec lui en suivant sa parole et en comptant sur son aide. Et pour cela, je vous propose qu'on puisse examiner la place de la parole de Dieu dans trois domaines de notre existence. Tout d'abord, la place de la parole dans notre vie. En général, il y a un objet que les chrétiens emportent avec eux lorsqu'ils voyagent, en tout cas avant l'ère du smartphone. Cet objet, c'est la Bible. Et j'espère que, en tout cas, lorsque le smartphone n'était pas encore en vogue, eh bien, c'est ce que vous emmeniez dans vos voyages. Je me souviens de mes voyages scolaires, notamment quand j'étais un peu plus jeune, auxquels j'ai participé, et vous pouviez être sûr que ma Bible se trouvait dans mon sac. Je l'emportais partout où je me rendais, et c'était en quelque sorte le lien qui me rattachait à Dieu. Même si j'étais ailleurs, même si je n'étais pas chez moi, même si j'étais loin de mon pays, j'avais la Bible. Et donc, j'étais lié à Dieu. Et si nous comparons la vie à un voyage, avec ses hauts et ses bas, nous pouvons nous poser aussi la question suivante. Avons-nous pris la Bible avec nous durant ce voyage de la vie? Regardons en tout cas le texte, et il va falloir me suivre un petit peu parce que je ne vais pas forcément le prendre dans l'ordre. Mais d'abord, les premiers versets. Regardons ce que le psalmiste décrit comme étant la voie du bonheur. « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. » Dans ces premiers versets, le bonheur est pour celles et ceux qui se conduisent comme Dieu le veut, comme Dieu l'a ordonné précisément dans sa loi, dans sa parole. Et nous avons ici l'image de la marche. Tout à l'heure, je parlais de voyage, mais on pourrait prendre cette image, l'image de la marche pour décrire la vie, la manière de se conduire. Heureux celles et ceux qui marchent, qui vivent, qui se comportent suivant la loi de l'Éternel. Alors cette loi désigne au sens large tout ce que Dieu a révélé à l'être humain à propos de sa volonté. Et cette loi est consignée par écrit dans la Bible. Et heureusement qu'on a une trace écrite, que ce ne sont pas juste des paroles volantes. Mais on a une parole écrite, cette loi qui nous vient de Dieu. Et nous avons dans notre texte, et tout au long de ce psaume, 8 synonymes au moins pour évoquer cette loi. Alors bien sûr, il y a le mot « loi », il y a le mot « instruction », le mot « voie », voie dans le sens « chemin », décret, prescription, commandement, sentence, parole. 8 synonymes qui traversent tout notre texte. Et c'est vraiment, en tout cas lorsqu'on lit ce texte, c'est vraiment la parole de Dieu, la loi de Dieu qui accompagne le psalmiste durant son existence, dans toutes les circonstances de sa vie. On peut le dire encore autrement, sa marche avec Dieu est guidée par la parole de Dieu. Et à l'époque, la parole de Dieu, sans doute, entre les mains du psalmiste, eh bien, c'était la loi de Moïse à cette époque. Heureux celles et ceux qui tiennent compte dans leur vie de ce que Dieu dit. Et ce bonheur est pour celles et ceux qui obéissent à Dieu. Ils obéissent à Dieu parce qu'ils sont attachés à lui. Ce bonheur est pour celles et ceux qui veulent vraiment plaire à Dieu. Ce bonheur est pour celles et ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Autrement dit, obéir à la parole de Dieu n'a de sens que si nous avons une relation avec lui. Et par Jésus-Christ, nous en avons une. Pourtant, faire ce que Dieu dit n'est pas si facile. Et j'en veux pour preuve le verset 9, par exemple. L'auteur pose la question suivante. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Comment le jeune homme, ou la jeune fille, rendra-t-il pur son sentier ? Cela suppose que pour l'époque déjà, ce n'était pas évident pour un jeune homme de rester pur dans sa conduite. Et nous pouvons dire, bien sûr, qu'il en est de même à notre époque. L'environnement du monde qui nous entoure ne cesse de nous distraire et de nous éloigner de Dieu et de sa parole. Pour l'époque, les distractions étaient peut-être la recherche de la richesse, la recherche du pouvoir, de la sagesse, du plaisir. Et toutes ces choses finissaient par corrompre le cœur. Et aujourd'hui, nous avons les mêmes distractions, avec beaucoup d'incitations à l'impureté, en particulier sexuelle, dans les films, dans les séries, parfois même dans les publicités, une incitation à l'impureté. Et je n'ai pas mentionné l'accès facile à la pornographie aujourd'hui. Et quelle que soit l'époque, la question est la suivante. Comment un jeune homme ou une jeune fille peuvent-ils s'en sortir ? La réponse est courte. Elle est au verset 9. En se conformant à ta parole. La parole de Dieu est un garde-fou efficace pour ne pas se compromettre dans ce monde. Et dans ce voyage qu'est la vie, n'oublions pas cette parole. N'oublions pas d'appliquer ce que Dieu demande. Parce que cela concerne notre bonheur et cela concerne notre pureté aussi. D'autres difficultés sont mentionnées à la fin de notre texte. Si nous regardons au verset 21, à partir du verset 21. Tu menaces les hommes arrogants, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes instructions. Des princes ont beau siéger pour parler contre moi, ton serviteur médite tes prescriptions. C'est vrai, suivre les commandements de Dieu nous conduit au bonheur. Il y a une vraie joie à écouter Dieu et à faire ce qu'il dit, à faire ce qui lui plaît. Et j'espère que vous avez déjà expérimenté cette joie simplement de lui obéir. Il y a une vraie joie. Mais bien souvent, cette obéissance et cette fidélité à Dieu n'est pas comprise dans ce monde. Le psalmiste demande à Dieu de lui enlever le poids du déshonneur, de lui enlever le poids du mépris, mépris de la part de ceux qui ne suivent pas le même chemin. Oui, parfois, obéir à Dieu est cause de souffrance dans ce monde. Pensons au mépris de ceux qui nous entourent et qui ne comprennent pas pourquoi nous réservons notre dimanche après-midi pour rendre un culte à un Dieu en qui ils ne croient pas. Avez-vous déjà eu des questions à ce sujet? Avez-vous déjà ressenti du mépris de la part de ceux qui considèrent que vous perdez votre temps? Pensons aussi au mépris des autres parce que nous avons décidé de rester honnêtes. Par exemple, durant nos études, nous n'avons pas triché quand l'occasion se présentait. Est-ce que des gens se sont déjà moqués de vous parce que vous, vous avez été honnête? Ou bien au travail, nous n'avons pas essayé de mentir sur nos heures. Cette souffrance, parce que nous obéissons au commandement de Dieu, est réelle. Et le psalmiste prie Dieu de le décharger de ce poids, le poids du mépris, le poids du déshonneur. Et au verset 23, eh bien, on nous parle de princes, de personnes d'une certaine importance qui se mettent à parler contre lui. Et pourquoi parle-t-il contre lui? Eh bien, précisément parce que le psalmiste est un croyant qui suit la loi de l'Éternel. Et voyez son attitude au verset 23. Malgré le fait que ces princes parlent contre lui, ton serviteur médite tes prescriptions. Le psalmiste ne se laisse pas déstabiliser par la réaction de ceux qui sont au pouvoir. Et au contraire, il persévère et il continue de trouver du plaisir dans les instructions de Dieu. Plus loin encore dans le psaume, mais ce ne sera pas affiché, l'auteur rapporte la persécution dont il est victime. Notamment au verset 69, il dit ceci, « Des hommes arrogants imaginent contre moi des mensonges. Moi, de tout mon cœur, je garde tes décrets. » Pendant que les autres essayent de chercher toutes sortes de mensonges contre moi, moi, de tout mon cœur, je garde tes décrets. Malgré l'opposition, malgré l'adversité, le psalmiste tient à obéir à la parole de Dieu coûte que coûte. Telle est la place centrale de la parole de Dieu dans la vie du psalmiste. Et pour vous, quelle est la place de la parole de Dieu dans votre vie en ce moment? Comment faites-vous face aux difficultés qui sont évoquées dans le texte lorsqu'il est difficile de demeurer pur? Lorsque des personnes vous méprisent à cause de votre foi et de votre obéissance à Dieu? Comment faites-vous face à ces difficultés-là? Est-ce que la parole de Dieu a une place à ce moment-là, face à de telles difficultés? Mes amis, il est clair, lorsqu'on lit ce psaume, que la parole de Dieu doit nous accompagner tous les jours de notre vie sur terre. Dans les bons, comme dans les mauvais jours. Dans nos épreuves, comme dans nos tentations. Et c'est bien la parole de Dieu qui dicte notre conduite. Et si nous l'avons délaissée ces temps-ci, redonnons. Redonnons à la parole de Dieu la place centrale qu'elle doit avoir dans notre vie, et sans attendre. Mais allons un peu plus loin, en examinant la place de la parole de Dieu dans notre cœur maintenant? Quelle est la place de la parole de Dieu dans notre cœur? Vous le savez, ou en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, je vais le rappeler, dans le langage biblique, quand on parle du cœur, on fait référence à notre être intérieur. On fait référence au siège de la pensée, de l'intelligence, de la volonté, des affections. On ne parle pas simplement des émotions et des sentiments, mais ça englobe vraiment tout notre être intérieur et tout ce qui s'y passe. Quand nous disons que nous aimons Dieu ou que nous cherchons Dieu de tout notre cœur, c'est pour dire que cette recherche ou cet amour pour Dieu engage toute notre personne, toute notre volonté, et pas seulement nos émotions. C'est un engagement total de notre part qui ne laisse aucune place à une idole, par exemple. Si nous disons que nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il n'y a pas de place pour autre chose que pour Dieu. Et si nous affirmons, en tant que chrétiens, que Dieu a la première place dans notre cœur, est-ce que nous pouvons aussi affirmer que sa parole, ce qu'il dit, a une place de choix dans notre cœur? Il ne s'agit pas simplement de dire « Dieu a la première place », mais est-ce que la parole aussi a une place de choix dans notre cœur? Regardez comment le psalmiste estime la loi de Dieu. Verset 8 d'abord. Verset 8, « Je veux respecter tes prescriptions. » Verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Verset 14, « J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. » Verset 16, « Je fais mes délices de tes prescriptions. » Je n'oublie pas ta parole. Verset 20 également, « Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. » Et verset 24, « Tes instructions font mon plaisir, ce sont mes conseillères. » Tous ces versets que je viens de lire renvoient à la réalité que le psalmiste aime la parole de Dieu. Parce qu'il aime Dieu. Et il ne veut pas pécher contre lui. Il serre cette parole au fond de lui, littéralement, il la cache au fond de lui comme un précieux trésor. Il considère les instructions de Dieu comme des conseillères. Les meilleures conseillères, verset 24. Et vous voyez la joie qui l'anime quand il s'agit de la parole de Dieu, une joie qui nous est décrite au verset 14. Une joie qui est semblable à celle que l'on éprouve lorsqu'on possède tous les trésors. Alors comme on n'a pas vécu cette expérience, on ne sait pas exactement ce que ça peut vraiment représenter. Mais on peut imaginer une joie semblable à celle qu'on peut éprouver lorsqu'on possède tous les trésors de la terre. Eh bien, c'est une telle joie que le psalmiste exprime vis-à-vis de la parole de Dieu. La Bible est-elle aussi un trésor pour nous? Et plus loin, dans le psaume, au verset 127, nous lisons « Voilà pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or fin. » Voilà pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or fin. Et le psalmiste l'affirme avec force. Sur cette terre, rien n'est plus précieux que la parole de Dieu. Rien n'égale la valeur de ce que Dieu dit. Et si pour l'époque, l'or représente ce qu'il y avait de plus précieux, eh bien ici, le psalmiste va jusqu'à déclarer son amour en disant « J'aime tes commandements plus que l'or. » Rien sur cette terre n'est plus précieux que la parole de Dieu. Et comment se fait-il que le psalmiste aime tant la parole de Dieu, qu'il aime tant la loi de Dieu? Eh bien, précisément parce qu'elle vient de Dieu. Précisément parce qu'elle dit quelque chose de Dieu. Les commandements de Dieu nous décrivent ce que Dieu aime, le bien qu'il veut voir dans notre vie. Les commandements de Dieu décrivent aussi ce qu'il est. Par exemple, Dieu nous ordonne d'aimer notre prochain ou de nous aimer les uns les autres parce que lui-même est amour. Dieu nous dit « Soyez saints » et la suite « Car je suis saint ». Et la Bible que nous avons à portée de main nous parle de Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. La Bible, c'est Dieu qui se révèle à nous. Et c'est en cela qu'elle est précieuse, parce que Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Et vous connaissez l'expression « boire les paroles de quelqu'un ». Lorsque vous buvez les paroles de quelqu'un, cela signifie que vous êtes particulièrement attentif à ce que cette personne est en train de dire. Et en réalité, cela se produit quand vous admirez cette personne. Vous admirez cette personne et vous êtes en train de boire ses paroles. Vous êtes tellement attentif à ce que cette personne est en train de dire. Mes amis, combien nous devrions d'autant plus prêter une attention unique aux paroles que Dieu nous adresse dans la Bible. S'il est vrai que c'est lui qui a la première place dans mon cœur, combien je devrais prêter une attention particulière et unique à ses paroles. Je devrais boire ses paroles. Non seulement le psalmiste aime la parole de Dieu, mais il semble passer son temps à la méditer. Et là aussi, nous pouvons relever quelques versets. D'abord le verset 7. « Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. » Verset 12. « Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. » Verset 13. « De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. » Verset 15. « Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Et le verset 23, « Ton serviteur médite tes prescriptions. » Ces versets nous révèlent que le psalmiste ne se contente pas de ce qu'il connaît déjà. Ce n'est pas parce qu'il a lu peut-être une fois la loi qu'il peut se dire « Maintenant je connais ». J'ai déjà lu. Comme un livre que vous prenez et que vous avez lu une fois, vous n'allez peut-être pas le relire. Non, le psalmiste ici est encore désireux d'apprendre. Il veut encore se laisser enseigner par le Seigneur. Et il demande à Dieu de lui ouvrir les yeux, de lui ouvrir l'intelligence, eh bien pour voir toutes les merveilles de sa loi. Et pour que cet enseignement reste dans son cœur, eh bien il médite cette parole. Il y réfléchit, il essaye de comprendre ce que Dieu attend de lui pour pouvoir l'appliquer. Et il y pense encore et encore. La parole de Dieu occupe ses pensées, renouvelle sa manière de penser. Et c'est ainsi qu'elle conserve une place de choix dans le cœur du psalmiste. Plus il la médite, et plus la parole de Dieu est ancrée en lui, plus il la médite, plus il connaît Dieu. Et plus il la médite, plus il aime Dieu. Mes amis, c'est cette méditation de la parole, cette méditation biblique que nous devons aussi pratiquer sans attendre. Prendre du temps pour réfléchir à ce que nous avons lu durant notre temps personnel avec Dieu. Ne fermons pas trop vite nos Bibles. Et je dois bien avouer que j'ai encore cette tendance, après avoir lu la Bible. Ne fermons pas trop vite nos Bibles, mais prenons le temps nécessaire pour réfléchir aux implications de ce que nous venons de lire. Prenons le temps de nous émerveiller devant ce que nous venons de lire. Et plus tard, si nous avons pris ce temps de lecture un peu plus tôt dans la journée, eh bien plus tard dans la journée, continuons d'y repenser. Le seul livre qui mérite toute notre attention et qui mérite sa place dans nos pensées et dans nos réflexions, c'est la Bible. Car elle parle du Dieu que nous aimons. Et on pourrait dire également que c'est le Dieu que nous aimons qui nous parle. Et la parole de Dieu nous parle également de Jésus. Jésus, notre Sauveur. en qui nous avons placé notre confiance pour notre salut? Est-ce que nous chérissons la parole de Dieu comme un trésor? Est-ce qu'elle fait notre plaisir lorsque nous y pensons? Ou bien est-ce trop difficile d'y penser? Et comme le psalmiste, eh bien, demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux afin d'apercevoir les merveilles de cette parole. Et si tu fais partie des chrétiens qui ont du mal à lire la Bible et à y trouver du plaisir, commence par cette prière. Cette prière qui est au verset 18. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je ne trouve pas ta parole merveilleuse, mais ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta parole. Je ne suis pas attiré par ta parole, mais ouvre mes yeux pour que j'aie envie de lire ta parole. Et que je découvre qu'effectivement, elle est plus précieuse que tous les trésors. Ça ne va pas venir de nous-mêmes, mais nous le demandons à Dieu. Car nous avons besoin que l'Esprit de Dieu, qui a inspiré cette parole, nous aide à comprendre les Écritures. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu poursuive la transformation de notre cœur pour que notre désir, notre soif de la parole soit encore plus grand. Et j'aimerais simplement faire écho à la conférence à laquelle j'ai assisté la semaine dernière, enfin il y a une semaine, durant cette conférence qui avait pour thème la suffisance de la parole. Un des orateurs a souligné avec justesse la chose suivante. L'attitude que nous avons vis-à-vis de la parole révèle l'attitude que nous avons vis-à-vis de Dieu. Si nous faisons peu de cas de sa parole, cela montre que nous n'avons que peu de considération pour Dieu. En réalité. Ce qui est dramatique pour des chrétiens. Au contraire, si nous sommes désireux de lire, d'étudier, de méditer la parole, si nous continuons de penser à ce que Dieu dit, nous montrons par là l'importance que Dieu a pour nous. Nous rendons témoignage qu'il est Dieu et qu'il est absolument digne d'être écouté. C'est pourquoi nous nous appliquons à lire sa parole. Alors oui, l'attitude que nous avons vis-à-vis de sa parole révèle l'attitude que nous avons en réalité vis-à-vis de Dieu. Et selon comment nous comportons vis-à-vis de la Bible, cela doit être un indice pour nous, pour notre cœur, de nous dire peut-être que je ne considère pas Dieu vraiment à sa juste valeur, puisque je ne fais pas beaucoup de cas de sa parole. Après avoir vu la place de la parole de Dieu dans notre vie, puis dans notre cœur, nous en venons à une dernière partie sur la place de la parole dans notre prière. Vous l'avez sans doute remarqué à la lecture de ce texte, le psaume 119 est avant tout une prière adressée à Dieu, qui commence au verset 4. « Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. » Le psalmiste constate que si Dieu a donné des commandements aux hommes, et il en a parfaitement l'autorité, lui qui est Dieu, lui qui est le Créateur, eh bien, il est tout à fait normal que nous les respections, nous, ces créatures. Sauf que c'est loin d'être facile, comme nous l'avons vu, pour des pécheurs comme nous. Mais là encore, le psalmiste nous sert d'exemple, parce qu'il exprime dans la prière son besoin de Dieu. Pas simplement pour comprendre sa parole, mais aussi pour pouvoir l'observer. Regardez le verset 8. « Je veux respecter tes prescriptions, ne m'abandonne pas totalement. » Verset 10. « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Et le verset 19, « Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. » Et nous avons à chaque fois, dans ces trois versets que je viens de lire, une formule négative qui montre que si Dieu n'intervenait pas, le psalmiste serait complètement perdu. Et notre Dieu est merveilleux, et il est plein de grâce à notre égard. Non seulement il nous donne des commandements pour notre bien, pour notre bonheur, mais il nous aide aussi à les suivre. Regardons seulement le verset 10. « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Le psalmiste exprime son désir. « Je te cherche de tout mon cœur. » Et tout de suite après, il prie « Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Et comme il est facile de s'éloigner des commandements de Dieu. Nous savons ce qui plaît à Dieu, mais d'autres chemins sont si tentants pour faire ce qui nous plaît. Et d'où cette prière du psalmiste qui place la loi de Dieu au cœur de ses préoccupations. « Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Le psalmiste reconnaît sa faiblesse. Il sait que malgré son envie de suivre la loi de Dieu, il est faillible. Et c'est tout autant notre cas. Nous avons peut-être envie de suivre la loi de Dieu, mais nous sommes faillibles. Comment obéir fidèlement à Dieu? Comment rester sur le droit chemin? La réponse est courte, avec l'aide de Dieu, en comptant sur lui. Et lorsque nous prions, avons-nous aussi cette même préoccupation? Est-ce que la parole de Dieu a une place dans nos sujets de prière? Est-ce que le respect des commandements de Dieu a une place dans nos requêtes? C'est Dieu que nous recherchons en premier, jour après jour. Et c'est à lui que nous voulons obéir. Mais si nous ne prions pas comme le psalmiste le fait ici, en demandant « Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements », il se peut que la parole de Dieu n'ait pas la place que nous prétendons lui donner. Prions que Dieu nous garde du mal et de tout chemin détourné. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a enseigné à ses disciples à prier « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Vous avez remarqué que dans la prière du Notre Père, il y a cette formulation « Par rapport au mal, par rapport à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Nous avons besoin que dans sa grâce, Dieu intervienne dans notre quotidien pour que nous ayons la capacité de lui obéir. Ne nous laisse pas nous égarer loin de tes commandements. Ça pourrait être une prière collective de notre part. Ne nous laisse pas nous égarer loin de tes commandements. On demande à Dieu de nous permettre de ne pas nous égarer. Et assurément, c'est à lui que nous le demandons. Nous ne comptons pas sur nos propres forces, mais nous lui demandons, ne nous laisse pas nous égarer loin de tes commandements. La suite du psaume mérite d'être lue, et je ne peux que vous encourager, malgré sa longueur, à pouvoir le faire, cette semaine notamment. Lisez la suite du psaume 119, jusqu'au verset 176. Et cet après-midi, par le texte que nous venons d'étudier, Dieu nous appelle à marcher avec lui, en suivant sa parole et en comptant sur son aide. Et pour cela, eh bien, nous sommes encouragés à donner à la parole de Dieu d'abord une place de choix dans notre vie, dans chaque circonstance de notre vie. Ensuite, une place de choix dans notre cœur, que la méditation de la parole nous amène à aimer Dieu davantage. Et troisièmement, une place de choix dans notre prière, car nous avons besoin que Dieu nous accorde sa grâce pour pouvoir appliquer ce qu'il nous demande de faire. Mes amis, Dieu sait que ce n'est pas simple, mais il nous promet qu'il ne nous abandonnera pas. Et au verset 8, eh bien, le psalmiste prie que Dieu ne l'abandonne pas totalement. Et vous savez bien que ce verbe « abandonner », nous le retrouvons ailleurs aussi dans la Bible, notamment au moment de la croix. Sur la croix, Jésus s'écrit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette parole du psaume 22, qui utilise aussi ce verbe « abandonner », qui revient en mémoire à celui qui meurt pour nos péchés. Et dans sa douleur, eh bien, effectivement, Jésus vit cet abandon du Père à cause précisément de nos manquements à la loi de Dieu, à cause de nos échecs répétés. à cause de notre rébellion contre Dieu. Jésus vit cet abandon du Père pour que nous n'ayons pas à le vivre. Et effectivement, Dieu ne nous abandonnera pas. Jésus a déjà rempli la part que nous n'étions pas capables de remplir, à savoir une parfaite obéissance. Et parce qu'il a pris sur lui le châtiment que nous méritions, eh bien désormais Dieu nous déclare justes. Et en plus, sans jamais nous abandonner, Dieu nous conduira à marcher avec lui, à lui obéir, jusqu'au jour où il nous rendra parfaits au retour de Jésus-Christ. Nous avons une telle espérance dans notre marche avec Dieu. Et on peut vraiment être reconnaissant de ce que ce soit Jésus qui a parfaitement obéi. Là où nous avons lamentablement échoué et que nous pouvons entièrement avoir confiance en Dieu, que grâce à cela, grâce à son obéissance, grâce à son sacrifice, Dieu ne nous condamne pas, malgré les échecs qu'on peut encore connaître, malgré les péchés que nous pouvons encore commettre à son égard. Dieu, si nous sommes en Christ, ne nous condamne plus. Et Dieu nous conduira jusqu'à nous rendre parfaits au retour de Christ. Prions ensemble. Lorsque nous lisons ce psaume 119, nous pouvons être interpellés par le fait que le psalmiste se montre tellement enthousiaste à l'égard de ta parole. Et peut-être que nous sentons effectivement un décalage avec ce que le psalmiste est en train de dire. Pourquoi est-ce que dans ma vie, je ne le vis pas de cette manière-là? Et pourtant, nous sommes convaincus que ce qui est écrit là est réellement l'expérience qui a été vécue. Et que c'est finalement l'expérience qui est attendu de chacun de tes enfants. Parce que tu es notre Dieu. Parce que nous le disons aussi, nous t'aimons. Et si nous t'aimons, effectivement, eh bien, nous aimons aussi ce que tu dis. Nous aimons ta parole. Nous voulons boire tes paroles. Et nous te prions, Seigneur, que là où il nous manque justement peut-être cet entrain, ce plaisir, cette motivation que tu remues, Seigneur, dans notre cœur, ce qui a remué pour pouvoir susciter ce désir encore, cette soif de pouvoir plonger nos regards dans ta parole, de pouvoir en comprendre toute la saveur et ainsi d'y voir toutes les merveilles qui y sont contenues. Parce que précisément, c'est toi qui es l'auteur de cette parole. Alors, il ne peut que y avoir de la saveur dans ta parole. Et veuille nous pardonner, Seigneur, pour nos continuels manquements à ce que tu as commandé. Le fait que nous puissions encore trébucher, le fait que nous ne soyons pas toujours constants, nos moments d'infidélité à ton égard. Pardonne-nous tout cela. Et nous avons cette assurance que tu peux nous pardonner parce que Christ, lui, a porté tous nos péchés. Et que nous nous confions uniquement dans son sacrifice pour recevoir ton pardon et pour continuer à marcher avec toi, avec confiance, en comptant sur ton aide. Parce que c'est toi qui nous donneras la capacité d'obéir à tout ce que tu nous commandes. Et tout cela pour ta gloire, pour ta seule gloire. C'est ce que nous te demandons, au nom de ton Fils Jésus. Amen.